VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la guerre civile libyenne. Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter ce mercredi une résolution soutenant un cessez-le-feu en Libye. Une résolution qui serait le premier texte contraignant adopté depuis le début du conflit en avril 2019, Magasi Koura.
Un vote a été demandé par le Royaume-Uni, rédacteur du texte qui a fait l'objet de discussions depuis plus de 3 semaines, indique un diplomate. La position de la Russie, qui avait bloqué le 5 février le projet de résolution, reste inconnue. Le texte affirme la nécessité d'un cessez-le-feu durable en Libye à la première occasion et sans précondition. Dans ce projet soumis au vote ne figure plus la mention de la préoccupation du Conseil de sécurité devant l'implication croissante de mercenaires en Libye. Cette mention avait été à l'origine du blocage russe la semaine dernière, Moscou réclamant de remplacer le mot mercenaire par combattant terroriste étranger. Au début des négociations, les États-Unis avaient réclamé que les mercenaires russes du groupe Wagner soient clairement identifiés dans le texte, selon un diplomate ayant demandé l'anonymat. La Russie est accusée depuis plusieurs mois d'avoir soutenu l'acheminement en Libye de plusieurs milliers de mercenaires de ce groupe privé réputé proche de la présidence russe au profit du maréchal Khalifa Haftar qui cherche depuis début avril à s'emparer militairement de Tripoli.
Au Togo, le principal parti d'opposition, l'Alliance nationale pour le changement, ANC, a dénoncé hier l'interdiction ou la perturbation dans le nord du pays de plusieurs meetings de son candidat à la présidentielle du 22 février, Jean-Pierre Fabre. Les précisions avec Irénée Herman Ongo.
5 meetings électoraux ont été interdits et perturbés depuis l'ouverture de la campagne électorale le 6 février, ont rapporté les responsables du parti. Dès le lancement de la campagne électorale, Jean-Pierre Fabre, tête de file de l'opposition togolaise et candidat de l'ANC en tournée dans la région des savanes, de la Kara et centrale, ne cesse de rencontrer les pires difficultés pour battre campagne comme la loi l'autorise, a indiqué un communiqué publié par sa formation politique. Vendredi, le meeting de Sinkassé a été interdit, les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir M. Fabre sous un arbre au bord de la route à l'entrée de la ville. Le même jour, le meeting de Tondjouaré a été interdit. Le meeting prévu samedi à Gando est également interdit par le préfet. Lundi, des personnes se réclamant du parti au pouvoir empêchent la tenue à Bassar du meeting de campagne de l'ANC, précise le communiqué qui dénonce des intimidations des militants sous le regard indifférent des forces de sécurité et de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La campagne prendra fin le 20 février. Environ 10 000 gendarmes et policiers ont été déployés. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, notamment le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien premier ministre Kodjo Agbeyome et le président fort Yassine Bey qui briguera un 4e mandat.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reconnu pour la première fois l'ouverture d'un dialogue avec les chefs djihadistes Iyad Ag Ali et Amadou Koufa. Le chef de l'État malien confirme ainsi une information qui courait depuis des mois. Comment cette annonce a-t-elle été accueillie au Mali? Pour une réaction, Bagassi Koura a joint l'analyste politique proche de l'opposition, Noun Togo.
Aujourd'hui, la situation est très difficile. Il faut aller en avant tous ceux qui ont pillé ce pays, tous ceux qui ont saccagé ce pays, tous ceux qui ont tué les Maliens dans les réponses devant une justice. Mais accepter d'aller négocier avec Koufa, aller négocier avec aujourd'hui Iyad Ag Ali, qu'est-ce que nous allons négocier avec eux pour aller dans l'application de la Sharia ou accepter donc de renoncer à l'intégrité d'une partie du territoire national? Sinon, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Nous restons toujours à l'écoute, nous verrons concrètement la promesse d'une déception.
Est-ce qu'il fallait le reconnaître publiquement?
Je suis d'accord avec vous. Les États-Unis négocient donc avec les talibans, d'autres, mais jamais on voit un président des États-Unis ou un président français sortir pour négocier. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'a poussé le président de la République, notre président de la République, à sortir devant la face du monde.
Après plusieurs années d'absence, l'armée malienne est finalement en route pour Kidal. Comment vous appréciez cela?
Une armée décomposée, une armée divisée par trois. Le Mali prend une partie, la Sima prend une autre, et le Gatcha prend une autre. Ça veut dire que ça va se passer. Le programme est très clair. Précisément, le 25 février, il y aura d'autres armées, la mission qui va aller sur Gao. Ils vont envoyer une armée récomposée à Gao. Et le 25 mars, ils vont envoyer une armée récomposée à Tombouctou. Le 25 mars, on va envoyer une armée récomposée à Ninaka. Ça veut dire quoi? L'armée récomposée, par exemple, il y a 300 et quelques envoyés. Le Mali a donné 100 et quelques. La Soma a donné 100 et quelques. Le Gatcha a donné 100 et quelques. Donc, dans ces conditions, finalement, quel type d'armée nous avons? Comment ça sera commandé? Et ça sera géré par les responsables, tout ce qui a été nommé par le gouvernement avec la complicité, parce qu'à un moment donné, Kidal a été donné à la SEMA, Ninaka a été donné au Gatcha et Tombouctou a été donné au NAA. Finalement, nous voyons que la situation devient plus en plus très compliquée pour nous. Il est bon de renforcer, de travailler pour rééquiper notre armée, pour donner la force à l'armée. On ne va pas accepter le principe que c'est une imposition aujourd'hui de la soi-disante communauté internationale pour demander d'appliquer l'accord. Si c'est comme ça qu'on applique l'accord, on accepte d'aller rapidement vers l'autonomie que nous n'avons jamais suivi, on l'a bien dit.
Noun Togo, analyste politique proche de l'opposition. Il était joint à Bamako.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Affaire Isabel dos Santos, la justice portugaise a ordonné le gel des comptes bancaires au Portugal de la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, fille de l'ex-président de l'Angola, José Eduardo dos Santos. La femme la plus riche d'Afrique est accusée de détournement de fonds publics par les autorités judiciaires de son pays, Abdourahmane Dia.
Selon le parquet portugais, le gel des comptes d'Isabel dos Santos entre dans le cadre de la demande de coopération judiciaire internationale adressée par les autorités angolaises. Elles accusent la milliardaire dirigeante de plusieurs sociétés de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier Sonangol sous la présidence de son père. Après le gel de ses avoirs dans son pays, le procureur général de la République angolaise, Helder Pitagros, s'était rendu fin janvier à Lisbonne pour solliciter l'aide du ministère public portugais. La justice angolaise avait mis la pression sur Lisbonne en précisant qu'elle la soupçonnait d'avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement. Isabel dos Santos avait pris des participations dans plusieurs grandes sociétés portugaises. Depuis l'éclatement du scandale, elle a commencé à vendre ses parts. Elle rejette les accusations portées à son encontre, affirmant qu'elle est la victime d'une chasse aux sorcières.
Affaire des biens mal acquis en France, la Guinée équatoriale a condamné et qualifié d'ingérence inacceptable la condamnation en appel par la justice française de son vice-président et fils du chef de l'État, Théodorine Obiang. Le gouvernement de notre pays se réserve le droit d'exercer devant les plus hautes juridictions internationales toute action de droit civil et pénal afin de réclamer la réparation du préjudice causé aux autres institutions et personnalités de Guinée équatoriale, affirme Malabo dans un communiqué. Théodorine Obiang, vice-président chargé de la défense et de la sécurité de la Guinée équatoriale, a été condamné lundi par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende, plus des confiscations de biens, pour s'être bâti frauduleusement un patrimoine considérable en France. À Paris, les avocats de Théodorine Obiang ont annoncé qu'ils allaient se pourvoir en cassation contre sa condamnation en appel. Actualité aux États-Unis maintenant, course à la présidence américaine côté opposition démocrate. Le sénateur socialiste Bernie Sanders a remporté mardi la primaire démocrate du New Hampshire, suivie de près par les candidats modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, désormais installés dans le groupe des aspirants susceptibles d'affronter le président républicain Donald Trump à la présidentielle de novembre, selon les grandes chaînes de télévision américaines. Les détails avec Nani Talani.
C'est le début de la fin pour Donald Trump, a lancé le sénateur indépendant, âgé de 78 ans, à ses partisans dans le New Hampshire. Il dévance l'ex-maire Pete Buttigieg, puis la sénatrice modérée du Minnesota, Amy Klobuchar, selon les comptabilisations des chaînes ABC, CBS et NBC. Longtemps favori, l'ancien vice-président Joe Biden a essuyé un cuisant revers en arrivant que loin derrière, à la 5e place, derrière la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. Joe Biden, dont la candidature semble désormais en péril, a quitté hier le New Hampshire avant les résultats pour se rendre en Caroline du Sud. L'ancien vice-président de Barack Obama y est donné très largement favori car il bénéficie de fort soutien dans la population noire.
Et pour terminer, le président Donald Trump était accusé mardi de bafouer le principe de la séparation des pouvoirs après une intervention exceptionnelle du ministère américain de la Justice pour adoucir la peine de prison requise contre Roger Stone, un de ses amis de longue date. Le président a nié toute intervention.